Le clivage, c'est bon. Tout le monde tweet, filme tout. En direct, les films, les courts-métrages, du spectacle. Ouais.
L'instant M, ça passe vite et ça en dit long.
Parce que le lapin, c'est exactement Charlie Chaplin.
Pour une presse indépendante.
Formation numérique.
Le nez sur l'écran internet.
Ce matin, nous posons une question clé pour le sujet de cette émission. Que signifie l'état d'urgence pour les médias et les journalistes? Réponse dans un instant avec Basile Adair, avocat au barreau de Paris, spécialiste du droit de la presse. Il est au téléphone car sur le point d'entamer une audience aux assises. À mes côtés, en revanche, Guillaume Dubois, directeur général de BFM TV. Bonjour.
Bonjour, c'est Basile.
BFM est devenu un réflexe d'info massif en cas d'événement. Retour sur les choix éditoriaux que soulève la couverture d'attentats comme ce week-end. Et puis rapide bilan aussi de vos 10 ans de priorité au direct et de soif d'en découdre.
L'instant M, l'actualité des médias sur France Inter.
Alors dans l'actu, on retiendra un grand quotidien européen dont je préfère taire le nom car il a publié hier une photo prise à l'intérieur du Bataclan. Je préfère taire le nom parce que sinon vous ferez peut-être comme moi, vous irez directement sur Google, vous allez cliquer et là vous allez tomber sur un champ de cadavres et c'est absolument insoutenable. C'est toujours comme ça que ça se passe en fait, les images ou les infos que nos journaux ne veulent pas diffuser nous arrivent par la presse étrangère. Alors Guillaume Dubois, je vous propose de commenter cette info. Comment est-ce que vous avez utilisé ce qui vous est parvenu ce week-end de l'intérieur de cette salle de concert?
On essaye d'exercer notre responsabilité. Alors c'est un grand mot, c'est vrai. Mm-hmm. On peut pas tout faire. On a une responsabilité colossale compte tenu des millions de gens qui nous regardent, qui se précipitent sur les chaînes infos, sur BFM TV en particulier en cas d'événement
important. Il y a des éléments
qui
vous sont parvenus pendant la prise d'otage?
Pendant la prise d'otage, non. Mm-hmm. Soyons très, très honnêtes là-dessus. Après coup, oui, un certain nombre. On filtre, parfois on floute, parfois souvent on ne diffuse pas. Encore une fois, en exerçant ce sens de la responsabilité, parce qu'il y a des millions de gens qui regardent, on ne peut pas tout faire.
Merci.
J'ai décidé que le Parlement serait saisi dès mercredi d'un projet de loi prolongeant l'état d'urgence pour 3 mois et adaptant son contenu à l'évolution des technologies et des menaces. En effet, la loi qui régit l'état d'urgence, la loi du 3 avril 1955, ne pouvait pas être conforme à l'état des technologies et des menaces que nous rencontrons aujourd'hui.
Alors, Basile Adair, avocat spécialisé dans le droit de la presse, l'état d'urgence pour les médias, ça signifie quoi ?
L'état d'urgence permet pendant une courte période, hein, puisque c'est 12 jours, si c'est juste un décret, et sinon il faut une loi, à l'autorité administrative, c'est-à-dire soit le ministère de l'Intérieur, soit un préfet, de prendre toute mesure pour assurer le contrôle de la presse et de la radio. Mmh. Alors évidemment, on voit que cette rédaction date de 55, puisque à l'époque, il ne prévoyait que la presse et la radio, même pas la télévision, puisque c'était une télévision d'État.
Il n'empêche, en l'État, est-ce que cette loi peut s'appliquer à des fils Twitter, à des comptes Facebook et à des sites d'information?
À mon avis, oui, puisque précisément, elle est très large. On pourrait ensuite la contester précisément parce que elle n'est pas suffisamment précise, mais mon sentiment est qu'elle serait applicable et ainsi obtenir, dès lors que c'est la sûreté de l'État qui est en cause, toute mesure telle que l'identification des personnes qui diffusent des messages sur les réseaux sociaux, les sources de journalistes, et voire empêcher la diffusion de certaines informations dès lors qu'elles seraient d'intérêt public.
C'est ça, c'est-à-dire que les pouvoirs publics peuvent demander à un média de ne pas divulguer telle et telle information. Ça arrive fréquemment, ouais. On le demande, ouais. Mais c'est-à-dire ouais. Que là, l'autorité de l'État peut l'exiger, peut l'interdire.
Exactement, et prendre toute mesure adéquate pour s'assurer que l'information ne serait pas diffusée.
Alors, vous avez mentionné également mettre le secret des sources. On sait que c'est une question largement débattue depuis 4 ans en France. Est-ce qu'il va devenir de plus en plus difficile à protéger dans un pays en état d'urgence?
Alors là, c'est une autre loi qui est applicable, qui prévoit que le secret des sources ne doit s'écarter qu'en cas d'impératif prépondérant d'intérêt public. Mmh. Il me semble qu'on serait précisément dans ce cas de figure. D'ailleurs, il suffit de voir les débats parlementaires, ils prévoyaient toujours ce genre de cas de figure, c'est-à-dire une vague d'attentats.
Et pour vous, c'est une question qui est plus à poser aujourd'hui que celle de la diffusion et du contenu des informations qui circulent dans les médias, celle de la source de l'information ?
À mon avis, c'est moins la diffusion de l'information que de toute façon, on ne pourrait pas empêcher, ça, il faut être réaliste, que par contre, les sources d'information, on voit bien que dans toutes les affaires récentes qui a intéressé l'autorité policière, hein, comme judiciaire, c'est tout ce que les journalistes, mais même les citoyens avaient pu recueillir comme information, comme image qui permettait d'identifier. Et dans ce cas-là, il y a des réquisitions qui sont envoyées. Il y a un régime de droit commun qui permet à des journalistes de ne pas déférer à ces réquisitions, hein, en temps normal. C'est en disant, je considère que c'est ma source, je ne coopère pas. Là, je pense qu'elle serait sommée de le faire, précisément du fait de l'état d'urgence.
Voilà, alors Guillaume Dubois, vous êtes directeur général de BFM TV. On se souvient que vous n'aviez pas donné, pendant les attentats de janvier, hein, pendant la prise d'otage, l'identité de Saïd Kouachi, vous l'aviez. Pourtant, là, la question s'est à nouveau reposée. Ne pas donner une information qu'on détient.
On le fait très souvent. Mm-hmm. C'est vrai que la question s'est posée. De fait, la réponse a été immédiate pour nous tous. C'est
vous
vrai
aviez l'identité,
on a l'identité du premier terroriste identifié. On ne l'a pas nommé. Dans un premier temps, on a attendu que la conférence du procureur de la République, François Molins, on s'est dit va peut-être la donner. Et à ce moment-là, il ne l'a pas donné non plus. Donc on a attendu encore une nuit supplémentaire et le lendemain matin. Et finalement, cette identité a été donnée par l'AFP. À ce moment-là, on a pu avancer. En permanence, dans ces situations, c'était le cas en janvier, c'était le cas ce week-end, on retient plus d'informations qu'on en donne.
Vous retenez de votre propre chef ou les autorités vous le demandent? Est-ce que vous vous êtes déjà retrouvé dans la situation où l'autorité l'exige?
Alors l'autorité l'a demandé à une occasion, alors c'était pas une identité, c'était pas une information, c'était des images, c'était le 9 janvier, les pouvoirs publics nous ont demandé d'arrêter la diffusion en direct des images de l'hypercachère avant l'assaut. On s'est exécuté comme l'ensemble de nos concurrents. C'est la seule occasion où effectivement il y a eu une demande précise. Là c'est de notre propre chef qu'on décide en permanence tout au long de la journée au fil de l'enquête et de l'information qui parvient par leurs différentes sources à nos reporters dans leur travail d'enquête, de donner ou de ne pas donner en fonction de l'analyse qu'on fait, l'importance ou de la susceptibilité de tel élément de nuire à l'enquête qui doit rester, même si on n'est évidemment pas des auxiliaires de police, qui doit rester quand même dans notre esprit et qui relève de notre responsabilité.
J'ai lu dans La Provence, qui a publié hier des témoignages d'otages détenus à l'intérieur du Bataclan, j'en cite un, je ne l'ai lu nulle part ailleurs, donc je ne sais pas si ça a été recoupé. On s'est dit que peut-être on s'en sortirait vivant. Les terroristes nous ont demandé d'appeler BFM et iTélé. Ils voulaient parler à des journalistes, mais on n'a eu personne. On se souvient en revanche, de manière tout à fait avérée, que Hamedi Coulibaly a joint la rédaction de BFM au mois de janvier. C'est une question toute nouvelle qui se pose Absolument. À tous les médias qui font du direct, même si vous vous en faites depuis 10 ans. Qu'est-ce qui se passe si un preneur d'otage ou autre terroriste exige d'être balancé en direct à l'antenne?
Alors, évidemment, on alertera immédiatement les pouvoirs publics et on leur demandera que faire. C'est une décision qui ne peut pas être effectivement prise comme ça à chaud. Et ce qu'on regrette,
c'est que... Mais vous avez élaboré aujourd'hui des scénarios ?
Non, parce que de fait, entre nous, oui, mais pas encore avec les pouvoirs publics. On regrette, on est demandeur depuis janvier de concertation avec les pouvoirs publics sur ces questions.
Elle est là, l'angoisse, quand
on
même, aujourd'hui.
On avait parlé dès le mois de janvier, compte tenu de la situation, vous le rappeliez, ça a eu lieu, pas exactement une demande d'intervenir en direct, mais
il n'avait pas demandé d'avoir l'antenne en direct.
On a été contacté par Coulibaly ce vendredi 9 janvier. On ne l'a pas diffusé sur le moment. On l'a diffusé à l'issue de l'assaut, expurgé des éléments de vocabulaire les plus terribles, notamment tout ce qui relevait de la propagande. On a diffusé des extraits après son
décisions si un preneur d'otage exige l'antenne, tout simplement, parce qu'il a un pouvoir énorme là d'un seul coup.
Vous avez raison, c'est un pouvoir terrible. Il faut qu'il y ait une réflexion de l'ensemble de la profession avec les pouvoirs publics, parce que la situation pourrait se poser. Et il faut qu'on soit tous préparés aujourd'hui à faire face à une telle situation. Mais ça doit être un dialogue avec les pouvoirs publics, évidemment.
Et il n'a pas eu lieu.
L'instant M avec Sonia De Villers.
Non mais il faut arrêter de rigoler maintenant.
C'est sûr, c'est qu'elle a
chopé
un ancien
premier
ministre.
Problème politique majeur. Plus personne ne comprend rien à ce parti. Plus personne ne fait confiance à personne dans ce parti. Par conséquent, il y a un homme qui dit voilà, moi je suis ancien premier, ancien secrétaire général du RPR. Je suis ancien président de l'UMP. Je suis ancien premier ministre. Je veux bien mettre tout le monde d'accord, mais à la condition qu'on me laisse bosser. Et j'ai l'autorité suffisante et je me laisserai pas manipuler, dit-il. Voilà, c'est comme ça. Maintenant, ça va. Arrêtons. Non mais arrêtons parce que la politique française. française à la petite semaine, il y en a ras-le-bol.
Voyez, c'est le sentiment
maintenant,
pour les Français,
moi aussi,
et les Françaises
je suis journaliste, je suis fatigué comme tout le monde et j'en ai marre d'être obligé de commenter des inepties.
Sauf qu'Alain Juppé a fait les statuts de l'UMP, c'est l'un des fondateurs.
Marre de commenter des inepties. Ça, c'est Olivier Mazerolle qui pousse son cul de gueule à l'époque où il était sur BFM TV. Hein. Ça a été un de vos premiers visages, Olivier
Mazerolle. Oui, c'était à l'automne 2012, donc c'est la guéguerre Fillon-Copé.
Voilà, donc ça fait partie des souvenirs réjouissants que vous évoquez dans ce livre sorti chez Plon, priorité au direct, Guillaume Dubois, 10 ans de coulisses hein, de la chaîne d'info BFM TV. Alors, on ne peut pas dire que ce soit l'autocritique qui vous étouffe hein, dans ces pages, même pas du tout, du tout. En même temps, vous racontez de manière assez rock'n'roll la saga de ces chaînes qui est partie de rien, mais alors absolument de rien du tout. Et si on met de côté le plaidoyer pro-domo...
C'est le récit d'une aventure et que dont la genèse est née, notamment à une époque en début d'année 2015, mm-hmm. où, suite à une période difficile de l'actualité qu'on évoquait à l'instant, il y a
eu
de critiques qui ont été adressées à l'info en continu en général et à BFM TV en particulier.
Et à la bourde commise par Dominique Rizet sur votre antenne.
Qui a été effectivement largement amplifiée malheureusement, mais qui existe et qu'on doit assumer et qu'on porte aujourd'hui, évidemment. Mais j'ai souhaité quand même raconter qui nous étions, d'où nous venions, ce que nous faisions, dans quelles conditions et comment, de façon à ce qu'effectivement après les lecteurs s'en jugent et les téléspectateurs aussi. Comme vous
cette dites, antenne, vous l'avez bâtie à une vitesse folle, vous n'étiez même pas prêt d'ailleurs le jour du lancement, il a fallu le repousser de 15 jours.
Reprises, oui.
Vous racontez plein de choses intéressantes, vous racontiez par exemple que vous n'aviez rien prévu pour le week-end parce que vous héritiez d'une culture radio et finalement c'était la grille de la semaine qui comptait plus que tout.
C'est vrai, alors sur le moment on l'a pas perçu, on s'est mis effectivement après coup. C'est vrai qu'à la radio, notamment dans les radios commerciales, parce que le week-end n'est pas mesuré en audience de la même façon, il y a une priorité qui est très forte donnée à la semaine et beaucoup moins à la grille du week-end, et qu'on venait tous de la radio, effectivement l'appellation BFM, qui est une radio au départ. Il y avait RMC déjà dans le groupe, on était tous des gens de radio, et c'est vrai qu'inconsciemment, on a construit d'abord une grille de semaine.
Jusqu'au jour où la tempête Xynthia s'est invitée dans l'actu.
Absolument, on avait déjà cette perception avant Xynthia.
Vous vous êtes sentis très démunis, quoi.
Et lors de Xynthia, on a merdé, hein, donc il y a quand même de l'autocritique dans ce livre. Je raconte quand même quelques grosses erreurs durant ces 10 années, mais c'est vrai que alors aujourd'hui la grille est tout à fait similaire les 7 jours de la semaine. Évidemment, on a pu le voir malheureusement.
Ce qui est intéressant à propos de Xynthia, et puis c'est une époque aussi où vous avez subi une panne énorme, c'est que vous vous rendez compte que l'argent c'est le nerf de la guerre, que vous manquez de moyens, que c'est l'occasion de réinvestir dans cette grille. À l'époque, on vous surnommait les OS de l'info, c'était les Rama qui le disaient, on pointait ce système low cost. Vous vous dites, on n'avait pas un rond. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que la situation s'est inversée, Guillaume Dubois, que depuis aujourd'hui, vous avez créé une sorte de machine de guerre qui est gérée au cordeau. Pendant ce temps-là, toutes les autres rédactions de France et de Navarre enchaînent plots sociaux sur mesure d'économie.
C'est
sans
vrai.
Être tout à fait réformé.
Alors on est loin d'être les plus riches et les plus nombreux de toutes les rédactions de France et Navarre. C'est vrai que la situation, cela dit, a évolué en 10 ans. Aujourd'hui, on a une équipe de 400 personnes à BFM TV, entre 250 et 300 journalistes. C'est le meilleur garantie de la qualité.
Et
c'est
plus
ce qui
personne
fait aujourd'hui.
Ne vous accuse de faire de l'info low cost.
Plus personne, en effet, effectivement. Mais au début, on pouvait pas faire autrement parce qu'on a c'était un esprit start-up au départ. On avait l'argent qu'on avait. Petit à petit, on a investi de plus en plus, le succès aidant. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on a une équipe importante, des moyens conséquents. Mais dans ce métier, on peut toujours en avoir plus.
Alors, des moyens conséquents, vous les avez mis notamment sur ces visages. On a entendu Olivier Mazerolle, vous avez débauché Ruth Elkrief. Et vous vous inspirez clairement des chaînes d'infos américaines où chaque tranche d'infos, finalement, est un show à part entière avec son logo, son habillage.
Très identifié,
une
ouais.
marque forte, quoi. Une marque...
Oui, parce que quand vous faites un thème toute la journée, là, si j'étais caricatural, je dirais la même chose toute la journée. Il faut effectivement marketer tout ça, créer des différences. Les différences, elles relèvent des personnalités des présentateurs. Elles vont relever de l'habillage, du type de la tranche, plus ou moins d'invités, plus ou moins de direct, plus ou moins de news versus effectivement du débat, de l'analyse avec des invités. C'est comme ça qu'à partir d'une matière unique qui est l'information de la journée, vous créez une grille complète 20 heures par jour en direct, ce qui est quand même une
gageure. Donc avec des personnalités très 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 identifiées et des choix éditoriaux identifiés, et en même temps un présentateur de chez vous me confiait récemment que quand on fait de l'antenne sur BFM TV, on n'a pas le droit de mettre un costard à plus de 200 euros. C'est vrai ?
Alors là, vous me surprenez dans la mesure où on paye leur costard aux présentateurs de BFM TV et qu'on les paye un peu plus.
Ouais. C'est ça, d'accord. L'idée, c'est quand même de rester dans la proximité toujours du téléspectateur. Très récemment, Alain Veil.
On n'est pas dans le show-off, si c'est ce que vous voulez
voilà.
Me faire dire.
Très récemment, Alain Veil, qui est donc le fondateur,
hein,
le président de BFM TV, dans un colloque au CSA, évoquait la question de la statistique ethnique. Hein, c'était un colloque consacré à la diversité. Il disait, moi, j'ai plus peur de compter le téléspectateur, lui. Puis il compte les visages qu'on lui montre à la télé. Concrètement, Guillaume Dubois, ça se traduit comment dans vos recrutements ?
Aujourd'hui, c'est une préoccupation importante. Il faut reconnaître que ça ne l'a pas été toutes les premières années de la chaîne. Aujourd'hui, notamment sous la pression de notre président, mais également des autorités de régulation, le CSA, etc., de l'opinion, hein, parce que c'est une question sur laquelle
l'opinion
évolue.
Mais ça veut dire quoi
évolue.
Concrètement ? Ça veut dire que vous voulez recruter des jeunes journalistes, vous voulez voir des visages noirs, arabes, asiatiques à l'antenne de BFM TV ?
Oui, c'est aujourd'hui, ça. C'est un objectif, absolument.
C'est
oui,
un
oui,
objectif.
En effet.
Alors, vous revenez aussi sur les grandes...
Parce que c'est la diversité de nos téléspectateurs, encore une fois.
Vous revenez aussi dans cet ouvrage sur les moments difficiles vécus par la chaîne. Il y a eu l'affaire Leonarda, vous avez été accusé de populisme, on vous a même rebaptisé BFN TV. On vous a dit que vous étiez une chaîne anti-François Hollande. Et aujourd'hui, c'est la question qui se pose quand on se pose la question de créer des nouvelles concurrentes à BFM TV, Guillaume Dubois.
Alors, c'est vrai qu'on nous a accusé d'être une chaîne anti-François Hollande. C'était notamment l'occasion de l'affaire Leonarda. Un an plus tôt, on était la chaîne anti-Nicolas Sarkozy, puisque je le raconte aussi, lors des derniers meetings, on était sur place, les derniers meetings du candidat Sarkozy à l'époque, dans la campagne de 2012. Nos équipes étaient insultées, recevaient des bouteilles en plastique en direct sur les plateaux qui étaient délocalisés lors de ces meetings. Donc je crois très sincèrement qu'on est parce que on est ce qu'on est, on est poil à gratter, on est effectivement une tonalité qui a toujours existé en radio mais qui n'a pas toujours existé en télévision. La télévision, l'info à la télé
dites,
a longtemps été
si
très consensuelle.
Si le CSA autorise LCI à devenir une chaîne gratuite et si on voit émerger une chaîne d'information siglée France Télévisions, c'est clairement pour nous affaiblir et c'est le pouvoir politique qui veut nous affaiblir.
Absolument, mais c'est parce que quel que soit le pouvoir politique, d'ailleurs, il y a un acteur qui est assez dominant sur son petit créneau. Hein,
ah donc c'est
continue.
Pas la gauche.
Bah, en ce moment, la gauche est au pouvoir. Mm-hmm. Donc, de fait, c'est la gauche qui a un certain pouvoir de décision. Ouais. De fait, vous avez raison. Donc, on a ce sentiment-là. On a de très bonnes relations avec le pouvoir politique. Malgré tout, c'est vrai qu'on a ce sentiment que l'exécutif serait pas forcément contre une espèce d'affaiblissement de BFM TV et voilà, d'avoir peut-être plus de chaînes d'infos moins puissantes. Voilà, répartir un petit peu la nuisance, entre guillemets, pour eux, qui sont des téléspectateurs compulsifs de BFM TV, notamment.
Oui, ça, on a l'occasion de s'en rendre compte chaque fois qu'un documentaire est consacré aux arcanes du pouvoir. On voit des écrans BFM TV allumés partout. Merci beaucoup, Guillaume Dubois. Priorité au direct, je vous l'ai dit, ça sort chez Plon. Plaidoyer pro-domo, mais assez rigolo à lire néanmoins.